Trois lectures ce matin. La première dans Ésaïe, au chapitre 50, les versets 4 à 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple, attentif, pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille, matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Le Seigneur, l'Éternel, a ouvert mon oreille, et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté, je ne me suis pas éclipsé. Voilà pour cette première lecture. La seconde dans l'Épître de Jacques, au premier chapitre, les versets 22 à 25. Que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir, avec humilité, la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie comment il est. Et dans l'Évangile, nous lirons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, les versets 28 à 36. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils, élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne, en ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Notre Dieu, tu as les paroles de vie et de lumière pour être un guide sur notre route. Béni sois-tu pour cette parole qui nous accompagne et nous éclaire. Comme je le disais cette semaine à quelqu'un, ce qu'il y a de difficile pour le pasteur, enfin avec le culte, ce n'est pas tant de trouver quelque chose de nouveau, d'original, de pertinent, voire d'intéressant, ou même d'édifiant à dire chaque semaine, encore que les dimanches reviennent très vite, mais c'est plutôt d'avoir à dire quelque chose de nouveau, de neuf, de ces textes qui nous reviennent, vous savez, avec une régularité de métronome, tout au long de l'année, en fait, avec nos fêtes religieuses, ce sont les mêmes textes auxquels on a droit, et de voir ça toujours d'un œil différent et nouveau. Et c'est assez difficile, l'exercice est compliqué quelque part, mais il est tout à fait passionnant parce qu'à chaque fois il exige de voir le texte et de l'aborder comme si c'était la première fois, comme si c'était, on le lisait comme une découverte, comme une première lecture. pour essayer de débusquer dans ces passages qui nous sont familiers, quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Et en relisant cet épisode de la Transfiguration, il y a une question qui m'est venue, qui ne m'était jamais venue jusque-là, c'est comment, à leur réveil, les disciples, lorsqu'ils voient Jésus parlant avec deux hommes, ont-ils décidé que ces deux hommes étaient Moïse et Élie? Comment est-ce qu'ils les ont reconnus? Comment est-ce qu'ils les ont identifiés? Je rappelle quand même qu'on était à une époque bien loin de la photo, d'Internet, d'Instagram et de toutes ces choses-là. Et l'un des deux venait de 1400 ans avant notre ère, l'autre du 9e siècle avant cette rencontre avec Jésus sur la montagne. Donc, je me suis posé la question de qu'est-ce qui pouvait bien les identifier. Alors, je ne répondrai pas à la question, parce que d'abord, ça n'en est pas une, vraiment. Elle n'est pas bien intéressante, à vrai dire. Mais ce matin, je voudrais que nous puissions nous arrêter et méditer simplement sur ce temps d'extase, ce moment extatique entre les personnages de ce texte, ce moment d'intimité, entre les personnages eux-mêmes et avec Dieu. En tout cas, justement, Moïse, Élie et Jésus ont en commun de vivre dans leur parcours de grands moments extatiques et d'intimité avec Dieu. Moïse, un jour, a douté de tout. C'était l'épisode du veau d'or, vous savez, les tablettes détruites. Il devait être bien déprimé à ce moment-là. Dieu vient sur la montagne pour le rassurer de sa fidélité. Je suis avec toi, tu peux y aller. Et il le rassure, et Josué, qui poursuivra la tâche de Moïse, apparaît dans cet épisode-là, que vous retrouvez dans Exode au chapitre 33. Élie, un jour, a douté de tout. C'était cet épisode de Baal, vous savez, après avoir tué tous ses prophètes, la reine Jézabel voulait le tuer, etc., était très déprimé dans sa montagne, et dans un souffle doux et léger, Dieu vient le rassurer, lui rappeler sa fidélité à son égard et lui annoncer aussi que Élisée prendra sa suite très bientôt. On retrouve tout ça dans le premier livre des Rois au chapitre 19. Et puis, il y a Jésus. Et entre autres grands moments de son ministère, il y a la transfiguration, donc en présence de ces hommes, des disciples qui poursuivront la tâche après lui. Alors quand on y regarde de près, ces moments d'extase arrivent en général dans la vie de ces trois hommes après des événements de grande tension et avant des moments d'accomplissement. Et ils annoncent la fin prochaine de celui qui les vit, mais annoncent aussi que d'autres viendront derrière. Vous savez, bizarrement, comme aux États-Unis, il y a ces chasseurs de tornades, vous savez, qui partent dans des voitures un peu costauds là, pour aller au milieu des tornades et prendre ça en photo ou en film. Nous avons dans nos églises ce qu'on pourrait appeler des chasseurs d'extase. C'est-à-dire des gens qui vont dans tous ces lieux, ces églises, etc., où se passent des choses qui sont un peu extraordinaires. J'ai vécu des choses comme ça, je me souviens, assez incroyables. C'était à la fin du millénaire, donc on pouvait peut-être, c'est ceci amène cela. Il y a un mouvement qui est tombé sur le monde, parce que ce n'était pas juste en France ou en Angleterre, mais c'était sur le monde entier. En janvier 94, c'était très précis, où les églises ont été secouées pendant quelques années, parce que ceux qui ont été touchés appelaient, ceux qui ont été touchés ou pas, d'ailleurs, tout le monde appelait ça la bénédiction du Père, the Father's Blessing. Et ça a créé beaucoup de tensions, on va dire, dans les églises. Je vais essayer de vous résumer la situation. Dans ces assemblées ou ces rencontres, les gens tombaient à la renverse, comme ça, dès qu'on priait pour eux, poussaient des cris d'animaux dans l'église, ils restaient là allongés un peu partout parce que voilà, ils étaient dans le repos de l'esprit, ou c'était des rangées entières qui partaient dans un grand fou rire au milieu de rien, enfin tout d'un coup c'était hop, ça partait comme ça, et de rangée en rangée, sur ces milliers de personnes, ça se mettait à rire et à rire et à rire. Très bien. Dans d'autres coins, ça pleurait aussi. C'était très bruyant tout ça, très, pour moi un peu dérangeant, j'avoue. En tout cas, ça crée beaucoup de confusion dans l'Église. On peut imaginer que cette nouvelle manifestation de Dieu aux hommes a interrogé. Et plutôt que de lire la vie des uns et des autres sur ces choses-là, j'ai plutôt été voir sur place, donc dans ces églises en France, au Canada. Je voulais comprendre, je voulais être témoin de ça et découvrir ce qui se passait. Alors, si dans ces moments de prière, les gens tombaient comme des mouches autour de moi, moi, je n'ai rien ressenti de tout ça. Si ce n'est cette espèce d'hystérie collective, les gens qui avaient besoin de rire, besoin de repos dans leur vie. C'est comme ça que j'ai compris plutôt la chose, que je ne condamnais absolument pas, parce que je me disais que Dieu pouvait les toucher aussi dans ces moments-là. Pourquoi pas, Dieu est assez grand pour ça, à mon avis. Maintenant, pour autant, ces moments d'intimité avec Dieu dans les bras du Père, comme ça qu'ils appelaient la chose, moi, je ne suis pas certain de l'implication de Dieu dans tout ça, mais pourquoi pas, voilà, pour ceux qui en ont besoin. Mais tout ça pour dire qu'il y a une époque où on a eu ces chasseurs d'extase un peu partout. Moi, je suis quand même resté dans le questionnement par rapport à ces chasseurs d'extase. Mais juste parce que, une simple raison, c'est que ce soit dans la Bible ou dans notre monde, l'extase ne se commande pas. Surtout s'il s'agit d'une rencontre personnelle avec Dieu, on ne décide pas comme ça d'une date, etc. Hein. Comment en effet pourrait-on contraindre Dieu à se manifester tel jour, telle heure, à tel endroit et de telle manière? Impossible. Dieu, en plus, choisit lui-même celui à qui il s'adresse. Ce qui fait que certains, comme ici dans notre histoire, Pierre, Jacques et Jean, ne seront jamais que des témoins, quand d'autres, enfin, derrière eux, ne seront jamais que des lecteurs. Alors, que firent chacun dans sa vie, Moïse, Élie et Jésus, après ces moments si particuliers de rencontre avec Dieu, ces face-à-face dans la présence divine? Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Eh bien, la réponse est tout à fait simple. Transformés et renouvelés par l'expérience, bien, ils ont continué à vivre la vie qu'ils menaient déjà, sans jamais d'ailleurs penser qu'après ce qui s'était passé, ils avaient acquis une autorité plus grande ou que voilà, quelque chose les aurait rendus plus au-dessus de la mêlée que les autres. Non, les trois hommes, chacun dans son époque de l'histoire d'Israël, est resté lui-même et peut-être, sans doute, a été un meilleur lui-même après cette rencontre, après ce temps d'intimité avec Dieu, mais il est resté lui-même. Et le propre de l'intime, c'est d'être intime, d'être personnel. Et bien sûr, il n'y a aucune intimité avec Dieu dont on puisse se prévaloir. Moïse, Élie et Jésus s'en vont. Ils s'en retournent vers les leurs, vers leurs contemporains, dire ce qu'ils ont à dire et faire ce qu'ils ont à faire. Mais ceci dit, Dieu les saisit avec une intention bien précise, enseigner. Enseigner, pour partager l'adoration du Dieu libérateur, la loi de la liberté et de la responsabilité, et l'enseigner, par la parole et par l'exemple, à un peuple rebelle, servile, infidèle, complaisant à l'égard de lui-même. Bref, Dieu les saisit et les envoie pour enseigner la voie du bonheur à ceux qui sont en train de passer à côté du leur. Voici donc ce qu'il en est de ceux qui vivent l'extase. Mais qu'en est-il de ceux qui sont témoins de l'événement? On ne voit pas Moïse et Élie être accompagnés dans ces moments-là sur la montagne par quelques disciples lorsqu'ils rencontrent Dieu comme ça, face à face. Mais lors de la transfiguration, Jésus n'est pas seul. Pierre, Jacques et Jean l'accompagnent. Alors que vont-ils faire, ces trois-là, de ce qu'ils ont vu? Pierre, en tout cas, lui, a envie que ça ne s'arrête jamais. Dressons trois tentes. Une attitude d'ailleurs très typique des chasseurs d'extase. On ne veut pas que ça s'arrête, on ne veut pas redescendre de la montagne, on resterait bien là pour toujours. Pierre donc voudrait bien maîtriser tout ça, mais il ne le pourra pas. Nul ne peut disposer d'aucune manifestation du Dieu vivant. Pas possible, parce que justement Dieu est libre et souverain, et ses rencontres se font à sa guise, pas à la nôtre. Et c'est pour ça que les disciples ne posséderont jamais ce qu'ils ont contemplé ce jour-là. Ils n'en seront que des témoins, et en plus des témoins qui n'en parleront que longtemps après, d'après ce qu'on comprend du texte, et encore peut-être le feront-ils pour revendiquer quelque autorité particulière à ce moment-là, quand les années seront passées. Le récit, en tout cas, tel qu'il nous est rapporté, ne nous donne aucune indication sur l'autorité, une quelque autorité qu'ils auraient reçue à ce moment-là, parce qu'en plus, ils sont d'abord, vous l'avez entendu, écrasés de sommeil, donc totalement inactifs, totalement passifs dans cette histoire, et lorsqu'ils deviennent actifs, leur action est complètement inappropriée. Ils ne sont pas plus brillants sur le mont de la Transfiguration qu'ils ne le seront plus tard sur le mont des Oliviers. Quant au seul commandement qu'ils reçoivent, eux, seuls témoins de la Transfiguration, c'est le commandement d'écouter. Un commandement d'attention et d'humilité. Et d'écouter qui ? Des voix du ciel ? Non. À l'instant même où ce commandement est énoncé, vous savez, par cette voix qui est au milieu de la nuée, il n'y a plus qu'eux, Pierre, Jacques, Jean et Jésus. Donc c'est écoutez votre maître, écoutez votre contemporain, écoutez-le, dit la voix, écoutez-le dans le face-à-face, écoutez-le dans le quotidien, écoutez-le dans sa vie de tous les jours aussi. Pierre, Jacques et Jean, en fait, ne sont témoins de la Transfiguration que pour être renvoyés à ce qu'ils sont, des disciples. De simples disciples destinés à écouter. Et nous autres aujourd'hui, alors, peut-être que nous avons connu ces moments d'extase, les uns ou les autres, dans nos parcours de vie. C'est possible, pourquoi pas ? En tout cas, on comprend aujourd'hui que, si cela nous arrive, ça ne peut être que pour nous renvoyer vers nos contemporains, leur enseigner à leur tour l'écoute du Dieu vivant. Mais voilà, l'extase d'intimité avec Dieu n'est pas plus prévisible que le miracle. Elle ne peut pas être ni promise, ni provoquée, ni répétée. Il est peut-être donc très probable que rien de tout ça ne nous soit jamais arrivé. Aucun temps grandiose comme ça ne serait tombé dessus, à aucun moment. Et dans ce cas, nous ne sommes que de simples lecteurs des Saintes Écritures. Hein, tout autant d'ailleurs que ceux qui auraient connu Dieu de manière plus intime. Simples lecteurs de la loi, des prophètes et de l'Évangile, soyons-le bravement, soyons-le joyeusement. En étant que cela, de simples lecteurs, nous sommes tous à égalité et ce que nous faisons est accessible à tous. Le dialogue avec Moïse, avec Élie, avec Jésus et même avec Dieu peut commencer là, dans cette lecture. Nous ouvrons les Écritures et nous lisons, nous écoutons et nous dialoguons les uns avec les autres. Et chemin faisant, nous fondons dans ces centaines de générations, nous disparaissons dedans, nous en faisons désormais partie de toutes ces générations qui ont trouvé dans ces textes la force, la dignité et la joie d'une vie libre et responsable. Maintenant, revenons alors, en simple lecteur, sur le mont de la Transfiguration. De quoi parlait Moïse, Élie et Jésus ensemble ? Peut-être que vous l'avez entendu dans la lecture, ils parlaient du départ que Jésus devait accomplir à Jérusalem. C'est ce que nous dit le texte. Et en fait, quand on entend ça, on pense à la passion, on pense à la crucifixion, à tout ce qui s'est passé là. Et oui, bien sûr, mais peut-être pas que. Parce que le texte original, en grec, nous dit que Jésus parlait de son exode qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et l'exode, bah, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas que le moment du départ, mais c'est aussi tout ce qui vient derrière, toute la suite qui vient après l'engagement du départ. Si vous regardez notre histoire de l'exode dans la Bible, ce n'est pas juste la traversée de la mer Rouge, c'est la traversée de la mer Rouge, mais les 40 ans qui ont suivi, c'est toute cette période qu'on appelle le temps de l'exode. Donc ce n'est pas juste le départ, parce que notre traduction en français dit départ, et peut-être qu'on en reste là, voilà, il va partir et ce sera le départ. Non, c'est le départ et tout ce qui suit. Et justement, Moïse, Élie et Jésus ont cela encore en commun, d'avoir vécu chacun son exode personnel, chacun le sien, et pourtant tous le même, ce qui arrive lorsqu'on sert Dieu, qu'on vit une vie libre et responsable, et qu'on espère transmettre ce que l'on vit. Comme on le disait dimanche dernier, la foi est une démarche de toute une vie. C'est un long processus. L'enseignement de la foi, l'apprentissage de la foi n'ont pas vraiment de fin, ils ne sont jamais vraiment terminés, et ils ne s'achèvent que lorsqu'on rend son dernier souffle. Alors certains jours, on prend la mesure de notre foi et elle est très haute, d'autres fois on prend la mesure de notre foi et il n'y a quasiment plus rien, quelquefois c'est avec joie, quelquefois c'est avec désespérance peut-être. Eh bien Moïse, Élie, Jésus ont connu ces moments-là, eux aussi. Et de la masse de ceux à qui ils se sont adressés, ont émergé de cette masse Josué, après Moïse, il a pris le relais, Élisée, après Élie, et Pierre, Jacques et Jean et des milliers d'autres après Jésus. Il y a des fruits, il y a un royaume en formation, en expansion. Et au terme de leur exode respectif, Moïse, Élie et Jésus ont un dernier point commun, c'est que nul ne sait où leur cœur repose. Moïse a été enlevé, Élie a été enlevé, Jésus, tel que la Bible nous le rapporte, a disparu lui aussi. Peut-être alors pour nous dire que leur parole demeure et à jamais demeurera, et que demeurera à jamais pour nous le commandement divin qu'ils ont entendu, chacun en leur temps, et que nous entendons encore, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, élu. Écoutez-le. » Alors mes amis, en ces temps difficiles, bien troublés, inquiétants, à défaut de grands moments d'extase, d'intimité avec Dieu, si nous avons une chose que nous pouvons prier les uns pour les autres, c'est une écoute sans cesse renouvelée, une écoute joyeuse, passionnée, pour apprendre, pour grandir, pour changer, une écoute qui nous envoie aussi vers l'autre pour partager. Une écoute de disciple qui met en pratique ce qu'il a compris, afin d'être toujours plus disciple, d'être toujours meilleur disciple, et non, comme le dit Jacques, des auditeurs oublieux. Amen.